Cours sur pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme vous voyez, les moyens audiovisuels sont sur place pour une raison très simple. C'est que Carlos Barros est très introduit dans la diffusion virtuelle de la recherche. Donc il a, depuis plusieurs années, mis beaucoup d'efforts à développer des diffusions sur le net, donc par un site qui s'appelle Historia e Debate, Histoire en débat, en fait, en quelque sorte, les questions qui se posent actuellement et des réponses historiques qui leur sont apportées. Donc il y a quelques centaines comme ça de conférences et de témoignages de la recherche qui sont disponibles sur ce site qu'il gère à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui est vraiment une espèce de palette de ce qui se passe dans la recherche historique. Donc Carlos Barros est quelqu'un qu'on connaît un petit peu ici puisqu'il est déjà venu quelques fois à Louvain-la-Neuve, mais il y a quelques temps. En fait, il est notre partenaire l'échange Erasmus que nous avons avec l'Université de Compostelle. Et donc, ça permet à ceux qui le désirent de faire un séjour d'études là-bas ou alors un échange d'enseignants, donc comme nous l'avons fait dans l'autre sens il y a quelques mois. Et donc, c'est un plaisir de l'accueillir ici. Il est dans le département d'histoire médiévale et moderne et ses recherches se développent en fait sur quelques grands axes, quelques perspectives. D'une part, il est fort intéressé par tout ce qui est d'ordre méthodologique, la méthodologie de l'histoire, la réflexion critique sur les méthodes mises en œuvre, la façon dont on peut théoriser et faire de la philosophie de l'histoire aussi, ça c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. L'historiographie, il a développé des recherches sur, disons, le regard rétrospectif sur le travail historique. Mais à la base, c'est un médiéviste, donc historien du Moyen-Âge. Il a beaucoup travaillé sur, entre autres, ce qu'on appelle les Irmandinos, qui sont une sorte de confrérie ou du moins de mouvement social qui s'est posé en révolte dans les années 1460 et qui, en Galice, a eu beaucoup de répercussions politiques et une grande postérité aussi dans l'historiographie. Il a fait des enquêtes sur les milieux juifs dans le nord-ouest de l'Espagne, donc la Galice, le Portugal. Il a étudié cela à travers aussi des colloques qu'il a publiés. Il a publié plusieurs livres aussi qui concernent des questions historiographiques et de méthodologie. Et le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, justement, c'est un des sujets qui l'intéresse, et pour cause, naturellement, étant professeur dans cet endroit aussi historiquement chargé qu'est Compostelle, il est, je crois, impossible d'échapper à ce sujet-là. Alors, pour ce qui est de ses contacts encore étrangers, il a beaucoup fréquenté Paris, donc le séminaire de Jacques Le Goff, et donc les recherches autour de l'histoire des mentalités, ça l'intéresse beaucoup. Donc je crois que c'est une occasion comme ça de l'entendre sur une perspective assez large sur les pèlerinages qui vont nous intéresser ici, donc avec cette mise en perspective des trois grands pèlerinages, donc Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, et je le remercie déjà pour l'intervention.
Merci. Merci vraiment. Et bonjour à tous, à tous les présents, mais aussi au public virtuel qui va suivre cette activité à partir de demain sur Internet. Tout d'abord, je fais exprimer ma solidarité pour les attentats. En mon nom, mais dans le nom de mes collègues de l'Université de Saint-Jacques de Compostelle, je crois, des historiens espagnols. Je suis Bruxelles comme vous. Remercier au professeur Boudouin, Vanden Abel, c'est l'invitation, c'est la troisième fois que je suis à Louvain-la-Neuve, la première fois dans l'année 2000 pour la refondation du département d'histoire, et la deuxième fois dans l'année 2006, et avec les collègues et les étudiants d'études latino-américains, et la troisième fois aujourd'hui, et pour parler récemment à Saint-Jacques de Compostelle. Le point de départ de cet exposé, c'est ma contribution au livre Homas en Italie à la Université de Parma et à Charles Legault, à mon ami Charles Legault, dans les années 2003. Le volume s'appelle Il Medioevo Europeo de Charles Legault. Bon, parler de l'évolution du mot peregrinus le latin classique, c'est étranger, simplement. Au début, le mot évolution pendant tous les Moyen-Âge. Non? Dans Isidore de Séville, dans le 6e et 7e siècle, il dit que peregrino es el que se encuentra lejos de su patria, c'est-à-dire celui qui se trouve lors de sa patrie, simplement. De façon que au Moyen-Âge, les pèlerinages, c'est aussi visitare loca sacra. Il y a une réduction de sémantique, non? En principe, c'est l'étranger, non? Mais après, c'est l'étranger qui visitare loca sacra. Au XIIIe siècle, dans les partidas d'Alphonse X, le savant, non? Le roi de Castille, on fait des différences entre Romero et Peregrino. Romero est celui qui va à Rome, et pèlerin, c'est un peu longue la citation, je vais le dire en espagnol, et après faire très vite une traduction en français. Pèlerin, c'est el hombre extraño que va a visitar el sepulcro de Jerusalén o que andan en peregrinación a Santiago o a otros lugares de luenga e extraña tierra. C'est-à-dire l'homme étrange qui va visiter le tombeau de Jérusalem ou qui font un pèlerinage à Saint-Jacques ou un autre lieu, endroit de longue et étrange terre. C'est-à-dire que dans les partidas, on décrit les trois grands centres du pèlerinage médiéval. Selon la chronologie de l'apparition de chaque tombeau, nous pouvons faire une sorte de hiérarchie du pèlerinage médiéval. Tout d'abord, Jérusalem, c'est-à-dire le tombeau de Jésus, après Rome, le tombeau de Saint-Pierre, et finalement, en troisième lieu, Saint-Jacques de Compostelle. Et à la fin du XIIIe siècle, et dans l'ouvrage de Dante Alighieri, Vita Nuova, on répète, es peregrino quien se halla fuera de su patria. C'est-à-dire, pèlerin, c'est quelqu'un qui se trouve hors de sa patrie. C'est l'acception originale des peregrinos, non? Mais après, Dante, il ajoute, solo se llama, faire attention, solo se llaman peregrinos quienes van a Santiago o de allí vienen. C'est-à-dire, il ajoute que seulement s'appellent pèlerins ceux qui font de Saint-Jacques y revient. Ça confirme le réductionnisme du terme peregrinus au pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est une transformation sémantique du mot qui a lieu pendant le plein Moyen-Âge, de façon que dans le XIIIe siècle, pèlerin, c'est la même chose que pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle. C'est-à-dire que les pèlerins à Saint-Jacques, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, c'est les pèlerins par excellence à la fin du plein Moyen-Âge, et bien sûr pendant le bas Moyen-Âge. La raison de cette réduction sémantique, selon Dante, c'est la suivante. Pues la sepultura de Santiago está más lejos de su patria que la de cualquier otro apóstol. Bref, vamos a la traducción. Car la sepulture de Saint-Jacques est plus loin de sa patrie que celle de tout autre apôtre. C'est-à-dire, c'est l'apôtre qui est enterré plus loin du reste de l'Europe. C'est pour ça que le point de vue de la Galice et pour travailler, pour étudier sur le pèlerinage médiéval, c'est tout à fait exceptionnel. Bien sûr, je suis galicien, non? Je le dis, mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire parce que c'est une sorte de périphérie centrale. On peut dire ça, c'est un peu paradoxal, non? Mais c'est vrai. Nous sommes la périphérie de l'Europe féodale, de l'Europe médiévale, mais en même temps, nous sommes le centre du pèlerinage plus important du Moyen-Âge européen. C'est le paradoxe, non, de la périphérie centrale. Nous sommes le centre, au moins par rapport à ce sujet que c'est le pèlerinage médiéval. Et il faut dire aussi que comme phénomène historique, le pèlerinage, c'est très important pour étudier, pour comprendre, pour faire la recherche sur la formation de l'Occident médiéval. Bon, on peut dire que l'Occident médiéval n'existerait pas sans le féodalisme, c'est vrai, mais n'existerait pas aussi sans la mentalité médiévale, compris d'une façon ensemble. Et dans cette mentalité et médiévale, c'est très important, la croyance religieuse. En dedans de la croyance religieuse, c'est très important, le pèlerinage au tombeau. Particulièrement les pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle. D'après l'importance des reliques, il y a une hiérarchie dans le livre sacré, non? En premier lieu, Jésus, le tombeau de Jésus est à Jérusalem, non? Dans la terre sainte. Hein? En deuxième lieu, Pierre, Saint-Pierre, son tombeau est à Rome, et c'est le seul sépulture, la seule sépulture où il y a des restes de l'apôtre, vérifiés de façon empirique. Mais on verra que les problèmes, disons, le problème des restes, l'authenticité des restes, c'est en tout cas un problème mineur. Hein. On verra, un mineur. Mais dans le cas de Saint-Pierre, c'est vrai. Et l'archéologie, il a démontré que ça existe des restes dans les tombeaux de Rome. Et en troisième lieu, Saint-Jacques, le majeur à Compostelle, que c'est le tombeau le plus récent, à partir du 9e siècle. Par comparaison avec Rome et auparavant avec Jérusalem. Nous savons que Saint-Jacques le Majeur, c'est le fils de Zébédée, c'est aussi le frère de Jean, l'autre apôtre, non? Et c'est très important, le leader de la communauté chrétien de Jérusalem. Il est mort dans l'année 42 pour l'épée en Palestine, non? Et après la moitié du premier siècle, se forme la légende sur la translation du corps de Saint-Jacques de Palestine jusqu'à la Galice dans un bateau de pierre qui va sur le mar. Bon, c'est une légende, bien sûr, qu'on dit la légende jacobée, de Jacob, de Saint-Jacques. Non? C'est-à-dire qu'il y a cette hiérarchie de reliques du Nouveau Testament, Jésus, Pierre et Saint-Jacques. Mais les derniers, on sera les premières. Et c'est quoi que l'essor, la formation du féodalisme perturbe la hiérarchie dévotionnelle présente dans le Nouveau Testament. De façon que Saint-Jacques, Dante, il l'a dit, non? C'est le synonyme dans le Moyen-Âge du pèlerinage médiéval. Pas Pierre et pas Jésus. Jésus. Plutôt Saint-Jacques de Compostelle à la Galice. Pour Georges Duby, le chemin à Saint-Jacques de Compostelle triomphe par exclusion. par exclusion de Rome et par exclusion de Jérusalem. Rome, c'est vrai, c'est proche pour le reste de l'Europe, non? Mais c'est aussi le signe du pouvoir politique. C'est la foi des pèlerinages naturels des prêtres et des prélats que font au Vatican à faire des demandes, surtout en cherchant des bénéfices pour eux, non? Pour ces églises. Et ça sera comme ça, c'est-à-dire une sorte de pèlerinage politique pendant tout le Moyen Âge. Et bon, ça c'est un obstacle pour un pèlerinage de masse, non? Populaire, non? Bon. Jérusalem, c'est très loin et très dangereux. Très loin, bien sûr, non? Dans le prochain Orient, c'est-à-dire pour aller sur le chemin, c'est très compliqué, il est très dangereux, et il nous favorise pourtant, et par conséquent, il nous favorise un pèlerinage massif. Non, c'est très compliqué, surtout à partir de l'an 1096 de la première croisade et suivante. C'est-à-dire les croisades, ils sont une sorte de pèlerinage armé et de pèlerinage chevaleresque aussi. C'est le pèlerinage de la noblesse, en armes, non? C'est compliqué pour le reste du peuple, de croyants, non, le pèlerinage à Jérusalem. Cependant, Saint-Jacques, c'est très loin seulement dans l'imaginaire, parce que c'est le Finistère, c'est la fin du monde connu au Moyen Âge. Pour le temps, par conséquent, ça encourage l'imagination populaire pour visiter le tombeau de Saint-Jacques le Majeur, non? Et aussi relativement tranquille le chemin. Et la Galice devient dans la péninsule ibérique très vite une arrière-garde de la guerre contre l'Islam. Et alors il y a une certaine tranquillité pour faire et sécurité pour faire les chemins, les personnes normales, non, et pas seulement les chevaliers et les pèlerins armés. Et aussi le pèlerinage à Saint-Jacques, un pèlerinage pacifique, pas élitiste. Il avait beaucoup de possibilités pour un pèlerinage populaire. Et nous pouvons rechercher ça dans l'iconographie. Il y a trois types d'iconographie de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a un Saint-Jacques pèlerin, il y a un Saint-Jacques chevalier, il y a un Saint-Jacques assis. S'impose au plein Moyen-Âge le Saint Jacques pèlerin avec la tunique, la coquille, les bourdons, le chapeau. Que c'est un Saint Jacques pacifique, et très proche à la culture populaire et à la, on peut dire, l'église de base. C'est un terme actuel, mais nous pouvons l'appliquer, non? C'est-à-dire que les Saint-Jacques pèlerins s'imposent contre les Saint-Jacques chevaliers, les Santiago Matamoros, les Saint-Jacques Matamoros de la guerre contre l'Islam, et aussi les Saint-Jacques pèlerins triomphent contre les Saint-Jacques assis en majesté. Comme moi, à ce moment-là, mais bon, de façon plus importante, avec des fauteuils très importants et tout ça, non? Et comme signe du pouvoir ecclésiastique. Le pouvoir ecclésiastique. Il y a aussi les Jésus en majesté, mais il n'est pas aussi les Jésus du peuple. C'est le Jésus de hiérarchique, non, et du pouvoir, mais c'est comme ça pour Saint-Jacques de Compostelle. En plus, le règne de Galice est un royaume sans roi propre. Bon, le royaume de médiéval de Galice appartient à la couronne de Léon et Castille. Mais c'est un royaume très avec une identité très forte, même linguistique. Non? Mais sans pouvoir politique propre. Je veux dire, vous savez, vous savoir pourquoi. Non? Et c'est aussi la périphérie, c'est dans la périphérie de la péninsule ibérique et de la couronne de Léon et Castille. Et Castille au nord-ouest, péninsulaire. Non? Ça, se dit tout ça, c'est-à-dire, il n'y a un pouvoir politique d'importance dans le nord-ouest péninsulaire, dans la Galice. Et ça facilite le consensus politique, c'est-à-dire l'appui de toutes les monarchies européennes, catholiques, et de toutes les églises dans la péninsule ibérique chrétienne, hein, et dans toute l'Europe. Il n'y a de polémiques, il n'y a de discussions sur le pouvoir. Les Saint-Jacques de Compostelle, en général la Galice, c'est un lieu pour les rencontres des pèlerins de toute l'Europe, pour les rencontres pacifiques des pèlerins de toute l'Europe. Bon, la cause essentielle du succès de Compostelle, à mon avis, c'est le changement de la religiosité dans le plein Moyen-Âge. Bon, nous savons qu'André Vossé, il a étudié très bien la spiritualité et médiévale. Il parle d'un remplacement du Vieux Testament pour le Nouveau Testament. C'est très important. c'est très important du point de vue de l'anthroponomie, on dit, mais c'est encore plus important pour comprendre la nouvelle religiosité pendant la pleine Moyen-Âge, c'est-à-dire les 11, 12 et 13e siècle du plein Moyen-Âge. À la fin de cette période, Dante il parlait, comme nous avons parlé de ça, il parlait de que pèlerin, c'est la même chose que pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle. Et pas seulement une transformation du pèlerinage, c'est aussi la fin de la transformation de la religiosité de l'autre moyen âge, une religiosité du vieux testament très autoritaire, non, les dieux trônantes, enfin, c'est très différent de Jésus et les nouveaux testaments. C'est ça qui favorise l'expansion de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, de pèlerinage médiéval en général, et surtout les pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle. C'est l'essor de l'idéal de la vie apostolique et de la popularité de Jésus. C'est l'essor de l'habitude de voyager pour la foi, pour la guérison, pour l'austérité, pour la pauvreté, pour la humilité, pour la pénitence. Et surtout pour l'imaginaire eschatologique et millénariste. Je le disais auparavant, la Galice est la fin du monde connu. Et dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, il y a, nous avons le porche de la gloire avec la représentation du jugement dernier et final, de la fin du monde selon la Bible. Et, c'est-à-dire que le pèlerinage, c'est une forme d'expression du millénarisme médiéval. Le chemin remplit trois fonctions au Moyen-Âge. En premier lieu, faire des contrepoints des pouvoirs féodaux, aussi des pouvoirs féodaux de l'Église. Le pèlerinage, c'est le contrepoint de l'Église institutionnelle, de l'Église politique, même de l'Église seigneurielle. En deuxième lieu, le chemin à Saint-Jacques de Compostelle apporte unité spirituelle à la nouvelle civilisation médiévale, malgré la fragmentation politique et l'inégalité de la société féodale. Une espèce de contrepoint social, une espèce de contrepoint social d'une société féodale très fracturée et aussi très passiste, non, pour la inégalité entre vassal et seigneur. En troisième loi, le chemin à Saint-Charles, le pèlerinage médiéval en général, mais surtout les pèlerinages à Saint-Charles de Compostelle, signifie la participation des masses, du peuple, dans la nouvelle religiosité. Au-delà des moines et des clergés, c'est-à-dire il n'y a pas de communauté globale de croyances sur le peuple. Et c'est pour ça que j'insiste dans l'importance du pèlerinage pour la construction de la communauté globale des croyances fondamentales pour comprendre l'Occident médiéval et même pour comprendre le féodalisme européen. Bon, je suis sûr que vous êtes en train de penser. Vraiment, est-il enterré Saint-Jacques, le majeur, à la Galice? Il n'y a pas de preuves de type documental ou de documentation d'archives qui démontre que Saint-Jacques, le majeur, il a fait la prédication en Galice, non plus la translation sur un bateau de pierre d'Orient à la Galice, non plus l'enterrement en Galice. Il n'y a pas de preuves du point de vue positiviste. Louis Duchesne, l'historien, le vieux historien français, l'ont démontré il y a longtemps, mais surtout, il a donné cette bataille pour cet sujet, c'est-à-dire l'authenticité des reliques à Saint-Charles de Compostela, Claudio Sánchez Albornoz. C'est un historien espagnol, c'est le père du médiévalisme espagnol, il y a en Argentine, après la guerre civile, qui est catholique, très catholique même, du point de vue personnel, mais il a démontré aussi qu'il n'y a de preuves sur l'existence du tombeau de Saint-Jacques, le majeur en Compostelle. Par contre, il y a des preuves claires dans les mentalités de l'assistance d'une croyance collective qui se transforme dans une grande force historique irrésistible à celle si nous devons l'assistance de la vie de Saint-Jacques de Compostelle, de notre université, de la Galice comme nationalité médiévale, de l'idée chrétienne de l'Espagne, et même de la construction de l'Europe médiévale qui a une très importante dimension mentale, de dimension par rapport aux mentalités religieuses. Alors, cette vérité est plus importante historiquement que la vérité purement positiviste. Ça comprend, non? C'est clair. C'est-à-dire que la vérité, pour l'historien, c'est un phénomène qui avait plusieurs faces, non? Pas seulement la preuve du documental, du document, que c'est des sources, que c'est tout à fait important pour nous, mais pas seulement. Parce qu'il y a des peurs par rapport au reste physique dans le tombeau, mais il y a des peurs dans la mentalité qui sont une partie très importante de l'histoire médiévale. Même une force historique très importante dans l'histoire médiévale. Bon, il faut faire quelques différences conceptuelles entre le mot pèlerinage et le mot chemin. Non, le pèlerinage n'est pas seulement spirituel, mais aussi exprime les souhaits de connaître longue et étrange terre. Nous allons parler de ça. Et le chemin, c'est à l'envers. C'est-à-dire pas, ce n'est pas seulement matériel, comme un itinéraire, non, matériel pour faire le chemin, mais aussi c'est une réalité spirituelle, surtout pénitentielle. Il faut dire que dans les sources médiévales, on dit le chaman français pour parler du chaman principal, bon, qui commence dans la péninsule hérovique, dans les Pyrénées, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, mais il y a dans notre chemin à Compostelle, qui s'appelle aussi dans la documentation médiévale chemin français. C'est-à-dire que le chemin français, le chemin français, c'est la même chose que dire le chemin à Saint-Jacques de Compostelle, même pour l'anglais qui arrive pour la mer à Saint-Jacques, ou que les mofarabes qui viennent du sud de la péninsule ibérique jusqu'à le nord-ouest péninsula. Il faut dire que le chemin français, c'est sont tous, mais principalement, naturellement, justement, les chemins qui viennent de la France. Et, parce que dans la France, on s'est fait les rencontres, avec les petits chemins qui viennent du reste de l'Europe. Et en concret, la Via Franchigena de l'Italie, auparavant le chemin à Rome, donc qui se diversifiait pour par conséquence de la transformation que je parlais sur la spécialisation de le pèlerinage médiéval dans le face à Compostelle. Bon, les acteurs politiques et économiques ont fait possible le chemin matériel. En premier lieu, l'évêque Teodomiro, dans le lieu où à 120, les tombeaux de Saint-Jacques dans le 9e siècle, après les rois catholiques de toute l'Europe, aussi Charlemagne, qui jouait un rôle très important pour la propagation et le chemin à Saint-Jacques de Compostelle. En troisième lieu, la Église institutionnelle, et surtout Cluny, sitôt, et après les ordres mendiants, les papes, tous les papes, ils sont très amis de Saint-Jacques de Compostelle, et après la confrérie religieuse, même il y a des confréries de pèlerins partout l'Europe. En quatrième lieu, les juifs la bourgeoisie du point de vue économique. C'est-à-dire il y a des protagonistes politiques. Le pouvoir favorise beaucoup l'examen à Saint-Jacques de Compostelle, surtout le chemin de type dans sa dimension matérielle, politique et économique. Mais la réalité matérielle et la réalité idéale vont ensemble. Le chemin est une voie de communication et de sens religieuse bien sûr, mais aussi laïque. C'est la voie de communication qui traverse toute l'Europe pour diffuser la nouvelle vie urbaine, les nouvelles infrastructures, architecture, le commerce global, mais aussi la nouvelle idée sur l'art roman, gothique, les idées pour les révoltes communales dans les 12e siècle, les systèmes trifonctionnel à partir du 11e siècle, le modèle chevaleresque, les chansons de gestes, surtout, et finalement le féodalisme comme forme sociale. C'est-à-dire la formation du féodalisme, il a eu des relations avec le pèlerinage aussi, comme le pèlerinage entendu comme une voie de communication sociale. C'est une sorte de globalisation, de mondialisation avant la lettre. Parce que le féodalisme, c'est étonnant, non? Et c'est merveilleux à la fois. C'est une société très, très segmentée, non? Du point de vue politique et économique, mais très unifiée du point de vue religieux et de mentalité. C'est-à-dire, sans voie de communication, de nouvelles, c'est impossible penser dans l'Occident médiéval comme une société unifiée. C'est-à-dire que, bon, je veux répéter ça, les réseaux de chemins à Compostelle permettent d'unifier pour les commerces, mais surtout pour les mentalités, l'Europe féodale comme civilisation, comme une nouvelle civilisation. Aussi, le royaume chrétien du nord de la péninsule ibérique en lutte contre l'Islam. S'appelle la Reconquista. Pendant 8 siècles, la unité chrétienne du point de vue politique et militaire contre l'Andalus, l'Espagne islamique, nous ne pouvons pas le comprendre sin la unité qui suppose les chemins de Saint-Jacques de Compostelle qui traversent tous les nord de la péninsule ibérique. Bon, bref, pour terminer, quatre remarques méthodologiques pour comprendre écrit ça pour comprendre le chemin d'après l'histoire. En premier lieu, il faut aller au-delà du positivisme et faire histoire des mentalités pour comprendre le pèlerinage à Saint-Jacques et c'est quoi pour comprendre l'histoire médiévale de l'Europe. En deuxième lieu, il faut mettre en œuvre une démarche où les relations réelles sur les chemins, il faut accepter qu'elles sont bilatérales, bidirectionnelles, multidimensionnelles. On peut dire qu'il faut faire une histoire en réseau pour comprendre le multidimensionnel. Il y a une partie économique, une partie sociale, une partie spirituelle, des mentalités, des pouvoirs. Pour comprendre le pèlerinage médiéval, je crois aussi qu'il faut comprendre la société médiévale. En troisième lieu, une petite remarque pour dire que dans la historiographie des années 60-70, l'hégémonie de l'histoire économique nous fait oublier le rôle principal de la croyance pour étudier, pour comprendre les pèlerinages, et je crois que pour étudier, pour comprendre l'histoire médiévale en général. En quatrième lieu, en conclusion, il faut faire une démarche que nous partageons l'histoire en débat, dans le réseau actuel de l'histoire en débat, c'est faire une histoire mixte comme une histoire globale, en étudiant les interrelations des différentes dimensions. Et quand je dis ça, je me rappelle des exposés des élèves dans l'activité que nous venons de faire à notre salle. Dans cette nécessité de faire une nouvelle histoire globale, il y a une chose qu'il manque toujours, c'est les mentalités. C'est dommage ça parce que les pays francophones, je suis galicien, je suis espagnol, mais je suis très francophone depuis l'année 68, c'est un problème générationnel, non? Je suis très content d'avoir eu cette opportunité quand c'était votre âge, bon. En tout cas, nous sommes très privilégiés comme historiens ou comme futurs historiens parce que nous pouvons profiter bien l'école de Chanal qu'il a découvert beaucoup de nouvelles sur les façons de faire l'histoire. Et mon ami Jacques Le Goff, dans les années 90, il me disait, mes collègues, les historiens français, ils ont abandonné l'histoire des mentalités très tôt. Il disait ça personnellement, il n'a pas écrit ça, mais il m'a dit ça. Bon, c'est vrai. Ça dépend, parce que les Français, ils ont continué en faisant des histoires de mentalité jusqu'à aujourd'hui, non? Parfois, utilisant bon, là, d'autres étiquettes, non, on dit étiquette, hein, oui, d'étiquette, l'histoire de l'imaginaire, l'histoire des représentations sociales, l'anthropologie historique. Mais il y a une partie de vérité, parce que en effet, l'histoire des mentalités manque dans beaucoup de recherches très bien faites, mais qu'il manque la subjectivité. C'est-à-dire les facteurs humains, en somme, les facteurs humains. Il n'y a pas façon de faire une histoire globale sans étudier les protagonistes de l'histoire à travers eux-mêmes. Ces façons de, comme on dit, la définition de mentalité, c'est les façons de penser, de croire, de sentir, d'imaginer, de l'inconscient, les habitudes, tout ça. Sans l'histoire de mentalité, c'est impossible une histoire globale. Bon, c'est fini. C'est fini. Je vous invite à voyager, finalement, à Saint-Jacques de Compostelle pour visiter la cathédrale de Saint-Jacques, le majeur, et l'université de Saint-Jacques de Compostelle à travers du programme Erasmus. Merci pour votre attention.